pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous. Si vous êtes en train de faire les paquets, le scotch vient de tomber là, sous le siège, en ce moment. Allez, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette soirée du jeudi 23 décembre avec le journal d'Adrien Taufollet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel, c'est une situation sanitaire qui inquiète le conseil scientifique.
Une France covidée avant la fin de l'année, une France désorganisée en janvier. C'est la prédiction de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Alors que les contaminations bondissent jour après jour en France, 88 000 ces dernières 24 heures, annonce Olivier Véran à l'instant, un record inégalé dans le pays. Explication dans un instant. La culture va-t-elle encore faire les frais de la lutte contre le Covid? C'est la solution choisie par nos voisins belges en France. Les professionnels se préparent à tout, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les contrôles de passe sanitaire renforcés avant même sa transformation en passe vaccinale. Emmanuel Macron et Mario Draghi pour une réforme des règles européennes budgétaires de Maastricht. Caméra dans le prétoire, les procès bientôt filmés, mais encadrés. Et puis les courses de Noël de dernière minute, parcours du combattant pour certains, vous
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes en Russie aujourd'hui avec la conférence de presse de Vladimir Poutine en cette année très particulière, 1991-2021, année anniversaire de l'effondrement de l'URSS, pire catastrophe du XXe siècle, avait dit précédemment Poutine. Nous ferons des allers-retours entre la Russie post-soviétique et celle de Vladimir Poutine, justement. Et à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, nous allons, avec bonne humeur, essayer de vous trouver en ce 24 décembre, enfin demain 24 décembre, le livre que vous avez promis d'acheter, que vous n'avez toujours pas trouvé. En général, ça finit en tournant 3 heures dans une librairie. On va vous épargner tout ça avec des conseils, les vôtres aussi, avec une libraire et le service culture de France Inter.
France Inter.
Un nouveau record vient d'être battu en France.
Oui, c'est ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'annonce. 88 000 contaminations ces dernières 24 heures. Ça n'a jamais été atteint en France depuis le début de l'épidémie. Et les 100 000, selon lui, pourraient être atteints probablement juste après Noël. Voilà qui n'est pas rassurant, alors que le Conseil scientifique ce matin a lui aussi mis en garde face à la propagation de l'épidémie de Covid, d'Omicron en particulier. Il faut s'attendre à une possible désorganisation de la société à partir de début janvier. Telle est la dernière prédiction du Conseil scientifique. Les semaines à venir seront difficiles. Bonsoir Véronique Julien.
Bonsoir.
Ce variant Omicron a fait beaucoup parler ces dernières semaines, mais il a aussi alimenté beaucoup de fantasmes.
Oui, alors Omicron très contagieux, le Conseil scientifique confirme. En revanche, les nouvelles sont plutôt rassurantes en termes de sévérité, d'après 3 études sud-africaines et britanniques qui viennent de sortir et qui sont des données seulement préliminaires. Le risque d'hospitalisation avec Omicron serait réduit de 35 à 80% par rapport à Delta. Ça, c'est plutôt encourageant. Le variant conduirait donc moins de monde à l'hôpital. Sauf que, même si on a moins de cas graves parmi les personnes infectées dans les semaines à venir, c'est un réel tsunami que nous prédit le Conseil scientifique. Plusieurs centaines de milliers de cas par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura sans doute encore beaucoup d'hospitalisations, mais aussi des flopées de cas positifs et de cas contacts un peu partout, et notamment dans les secteurs stratégiques, écoles, sécurité, énergie, santé. Il faut s'y préparer. Arnaud Fontanet est épidémiologiste et membre du Conseil scientifique.
C'est une question qui va toucher l'ensemble de la société, qui va être complexe. Et il faut simplement s'attendre à ce que le mois de janvier, on fonctionne d'une certaine façon dans un mode dégradé. Il y aura des ajustements à faire parce que c'est une question qui va être vraiment très présente, très transversale. Les temps de doublement du nombre de cas sont estimés entre 2 et 3 jours. Tout ça, c'est extrêmement rapide.
Le mois de janvier s'annonce compliqué. Que faire, par exemple, si les soignants sont eux-mêmes positifs et qu'il n'y a plus assez de monde pour soigner? Le Conseil pose clairement la question et demande finalement à ce qu'on revoie les règles d'isolement en vigueur. À demi-mot, il explique qu'il faudra sans doute se résoudre à laisser travailler, par exemple, des cas contacts ou des positifs asymptomatiques, à condition, bien sûr, qu'ils se protègent.
Véronique Julia, spécialiste Santé de France Inter. Cela va-t-il conduire à des changements des règles sanitaires sur l'isolement des cas contacts, par exemple, ou la mise en place, si nécessaire, de plans de continuation de l'activité dans les services publics? L'exécutif pourrait devoir y avoir recours. Ce sera discuté probablement lundi à l'issue du Conseil des ministres exceptionnel. La désorganisation, on la voit déjà poindre le bout de son nez. La SNCF annule déjà des trains régionaux à cause de la 5e vague de Delta, phénomène qui reste pour l'instant local et marginal. mondiale, rassure la direction. Et puis, il faut voir la situation chez nos voisins européens. En Écosse, dernière bamboche ce week-end, fermeture des boîtes de nuit à partir de lundi. Pour une durée de 3 semaines à minima, le championnat de foot anglais perturbé. 2 nouveaux matchs de première ligue prévus dimanche sont reportés à cause de cas positifs dans les effectifs. En Belgique, c'est pire. Toutes les activités en intérieur seront interdites à partir de dimanche. Parc d'attractions, bowling, cinéma, théâtre et salles de concert, rideau baissé. En France, on n'en est pas là, mais certains théâtres annulent car il y a des cas de Covid dans les équipes artistiques. Les professionnels espèrent de tout cœur éviter une nouvelle fermeture à l'image de Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de plusieurs théâtres à Paris.
On est toujours un peu inquiet, mais pour l'instant, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est qu'on joue et on est heureux de jouer. En ce moment, nos salles sont pleines et ça fonctionne vraiment. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des contaminations dans nos théâtres. Donc, nous, on fait le maximum pour accueillir le public dans les meilleures conditions sanitaires. Ensuite, effectivement, il y a des nuages. Mais vous savez, on a été tellement privés de jouer qu'on s'est engouffré dans cette perspective et qu'on multiplie nos efforts pour jouer et présenter nos spectacles. La parade, c'est évidemment de demander aux artistes de se tester tout le temps, tous les jours, pour pas qu'on prenne le moindre risque. On doit être exemplaire et on doit montrer que nos lieux sont sûrs, pour nos artistes évidemment, et pour le public, les deux vont de pair.
Jean-Marc Dumontet, joint par Stéphane Capron. Sur une note positive, à l'approche de Noël, des dîners en famille, les Français se testent massivement pour éviter de contaminer leurs proches. Plus de 6 200 000 dépistages réalisés la semaine dernière. C'est un record qui devrait même être brisé cette semaine, vu la radia sur les tests ces derniers jours.
Et c'est toujours le mot d'ordre du gouvernement. Testez-vous et vaccinez-vous.
Emmanuel Macron l'a répété ce midi dans une vidéo diffusée sur Internet. Et puis il y a l'arme du pass vaccinal. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres, puis examiné dès mercredi en commission à l'Assemblée nationale, avec notamment un renforcement des contrôles des passes pour que les restaurateurs puissent vérifier que l'identité corresponde à celle du détenteur du pass. La guerre au faux pass est d'ailleurs déjà lancée actuellement. Intensification des contrôles dans les lieux qui accueillent du public, dans les gares par exemple, ou dans les restaurants, car les contrôles des passes sanitaires se sont relâchés pendant un temps là-bas. Reportage à Étiole dans l'Essonne, signé Audrey Abraham, France Bleu Paris.
Visite impromptue en plein déjeuner, une dizaine de gendarmes passent la porte du restaurant. Le gérant est prié de présenter son application Covid Vérif. Les gendarmes y trouvent l'historique des contrôles effectués. Les explications de Benoît Caplan, secrétaire général de la préfecture.
On peut juste faire un contrôle de cohérence si vous avez dit personne dans une salle et que vous avez que 2 contrôles, c'est que manifestement il y a un souci.
Un coup d'œil sur la salle, l'établissement semble en règle, mais les gendarmes vont plus loin. Ils font le tour des tables, contrôle d'identité des clients pour vérifier que le pass sanitaire leur appartient. Aude déjeune avec 2 collègues.
Je pense que d'avoir un pass et de montrer sa carte d'identité, c'est pas très contraignant pour pouvoir passer des bons moments. On a été contrôlé dès l'entrée, aucun souci.
Contrôle vu d'un bon œil aussi par Ranjit, le gérant de l'établissement.
Systématiquement, on joue le jeu et ça permet de ne pas fermer encore des établissements comme avant. Pas avoir un reconfinement encore une fois, c'est bien.
Premier restaurant en règle, les gendarmes se dirigent vers le suivant. À peine arrivé sur le parking, sous leurs yeux, un client tente de fuir. Il est rattrapé. Le pass sanitaire qu'il a présenté à l'entrée du restaurant n'est pas le sien.
C'est le jeu. Je suis sorti et je mange mon amende et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie.
Pour ce client en infraction, ce sera 135 euros d'amende et bien sûr, interdiction de rejoindre sa famille à table. Il patientera le reste du déjeuner sur le parking.
Du côté des anti-pass sanitaires et vaccinales, des manifestants ont fait irruption dans le Conseil général de Guadeloupe aujourd'hui en brisant des vitres et des objets. La mobilisation sinon va prendre des vacances mais reviendra le deuxième week-end de janvier à Paris. C'est Florian Philippot qui l'annonce pour freiner un gouvernement devenu fou, dit-il. Manifestation le 8 janvier à laquelle il invite d'autres responsables politiques pour une union sacrée contre le pass vaccinal, entre autres Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau ou encore Jean-Luc Mélenchon.
Le nouvel axe franco-italien en Europe prend la parole dans le Financial Times.
Une tribune signée Emmanuel Macron et Mario Draghi qui appelle les pays de l'Union Européenne à réformer les règles budgétaires définies par les critères de Maastricht. Le but, avoir une plus grande marge de manœuvre financière pour affronter l'après-Covid. Une déclaration qui n'est pas surprenante de la part du président français. Début décembre, déjà, Emmanuel Macron l'avait laissé entendre. Ce sera l'une des priorités de la présidence française à la tête de l'UE, Bertrand Guélicher.
Dans le Financial Times, Emmanuel Macron et Mario Draghi réclament une plus grande marge de manœuvre pour réaliser des dépenses nécessaires à l'avenir et à la souveraineté de l'Europe, en pariant sur une croissance à long terme. Les règles budgétaires devraient favoriser la dette créée pour financer ces investissements, écrivent les deux dirigeants. Il est également suggéré la création d'une agence européenne de la dette, chargée de refinancer les dettes des États, allégeant ainsi le bilan de la Banque Centrale Européenne. Selon l'Élysée, l'objet de cette tribune est de lancer le débat sur une réforme de la gouvernance économique de la zone euro. La présidence ne veut pas opposer les pays du sud de l'Europe, souvent endettés et déficitaires, à ceux du nord, généralement plus vertueux en matière de finances publiques. Loin des critères de Maastricht, considérés comme un corset, il est désormais question de trajectoire de la dette, de croissance plus inclusive et d'une responsabilisation des États membres. L'accent est mis sur le climat et les enjeux technologiques. La question est de savoir quelle sera la réaction de l'Allemagne, pays auquel cette tribune semble s'adresser en priorité.
Soupçonné de préparer une invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a montré un visage moins tendu ce matin lors de sa conférence de presse annuelle. Comparé aux menaces de représailles militaires de mardi, il reste fermement opposé à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, mais salue positivement la réponse favorable de Washington à des négociations avec la Russie.
C'est désormais acté, tous les procès pourront bientôt être filmés et diffusés.
C'était l'une des mesures de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire portée par Éric Dupond-Moretti. Elle vient d'être publiée aujourd'hui au Journal officiel. Voyons ce que ça change avec vous, Mathilde Vincenot, bonsoir.
Bonsoir.
Jusqu'ici, les caméras étaient autorisées lors de procès avec une portée historique pour en garder une trace dans les archives. On pense au procès de Klaus Barbie ou celui des attentats du 13 novembre en ce moment même. Désormais, tous les types d'audiences pourront être filmés, mais avec tout de même un certain nombre de conditions à respecter.
Oui, pour installer une caméra, il faudra l'avis du ministère de la Justice, l'accord du chef de jury et des parties au procès, les personnes jugées, les victimes. Elles peuvent demander à ne pas être reconnues, par exemple. Emmanuel Masson, porte-parole du ministère de la Justice.
Il va y avoir, dans certains cas, des images qui vont être floutées ou des paroles qui seront occultées. Par exemple, pour ne pas permettre l'identification de certaines personnes, pour ne pas donner d'informations, par exemple, d'adresse.
Il y aura aussi un droit de rétractation, 15 jours pour changer d'avis après la fin du procès. De toute façon, il n'y aura pas de diffusion d'images en direct à la télé comme on peut le voir aux États-Unis. Il faudra attendre que l'affaire soit terminée. Emmanuel Masson.
Si vous filmez une audience, par exemple, une audience correctionnelle, qu'une personne est déclarée coupable et qu'elle fait appel, vous ne pourrez pas diffuser cette audience tant que la décision d'appel n'aura pas été rendue. Ça veut dire juste qu'on se préserve de toute influence.
Les images devront aussi être anonymisées au bout de 5 ans pour respecter le droit à l'oubli. Avec ces garde-fous, le ministère espère éviter le sensationnalisme et montrer la justice du quotidien.
Mathilde Vincenot, la mise en examen d'un grand nom de la coiffure, une star, le français Franck Provost, soupçonné d'avoir dissimulé au fisc à l'aide d'un logiciel informatique les recettes d'une partie de ses salons. Mis en examen mardi pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale, ce qu'il conteste fermement, dit son avocat. Un mot pour vous annoncer une disparition. L'auteur et journaliste américaine Joanne Didion est morte à 87 ans aujourd'hui. C'est le New York Times qui l'annonce. Et puis on finit avec Noël, puisque Fabienne, vous avez un joli pull de Noël, comme on dit. Il y a encore des retardataires qui cherchent des cadeaux. Ce sera au menu de votre téléphone tout à l'heure. Eh bien, allons faire un tour à Brive-la-Gaillarde avec les retardataires. Le rush de dernière minute, c'est en musique avec Nathalie Cole.
Porté par l'ambiance festive, il y a les retardataires sereins.
On en est, aux deux tiers. Je pense qu'on va y arriver. On stresse pas du tout.
Je viens de terminer à l'instant. Il n'y a plus qu'à acheter 2-3 petits paquets cadeaux, se préparer pour la fête et passer un excellent réveillon.
D'autres retrouvent le sourire après quelques sueurs froides.
Je viens juste de terminer là. Un peu en retard, mais soulagé, oui. Il y a pas mal de magasins où il y a beaucoup de ruptures de stock sur pas mal d'articles. Donc j'ai eu de la chance. Mais oui, j'ai des amis qui galèrent un peu du coup.
Et pas seulement les amis.
Il y a ma mère qui vient de passer, qui est dans le rush, elle. Elle n'a pas encore tout, donc là, elle est en train de courir un peu partout.
Mais rien ne sert de courir, il aurait fallu partir à point. C'est ce que semble se dire ce briviste qui erre d'une vitrine à l'autre, l'air désespéré.
Je commence juste. C'est la galère, et puis on ne sait pas quoi acheter, ouais, donc ça va être la course.
Et si vraiment vous ne trouvez pas, il reste une ultime solution. l'a joué philosophe au moment du déballage.
Faut prendre le temps quand même de bien choisir et pas offrir n'importe quoi. Sinon on reportera, si je trouve rien, je préfère offrir plus tard que faire un mauvais cadeau.
On va reporter Noël, parce que j'ai rien trouvé.
Nathalie Colle de France Bleu, Limousin. Allez, au travail, il faut chercher les derniers cadeaux, Fanny.
Allez, absolument, Adrien. Merci beaucoup. Vous allez revenir, vous, tout à l'heure, avant d'aller faire vos cadeaux dans Un jour dans le monde. Vous nous emmènerez notamment en Thaïlande, où les tortues, elles, adorent cette pandémie. Nous allons ce soir en Russie, chez un Vladimir Poutine qui ne veut pas se laisser humilier la Russie, dit-il. Avec notre invitée Marie Mandras, nous nous interrogerons aussi sur ce qu'il y a d'URSS tombé il y a 30 ans dans Vladimir Poutine. Et puis, en deuxième heure, on le disait à l'instant, et dans le téléphone sonne, traîner dans une librairie, j'imagine pour vous aussi, c'est un petit bonheur de flânerie, sauf le 24 décembre. Donc ce soir, pour ceux qui hésitent, roman récent, polar, beau livre, BD, on va essayer de rendre votre achat plus fluide avec une libraire, avec le service culture de France Inter, avec vous et vos suggestions. Le livre, c'est le premier cadeau offert, mais parfois c'est aussi un casse-tête. On va tâcher ensemble d'être efficace et festif, et ça se passe au 01 45 24 7000.